Culture. La curiosité sous toutes ses coutures. 17h-17h30, un mercredi sur deux, et le dimanche à 11h, sur les bonnes ondes de Radio Campus Angers.
Bonjour à tous et bienvenue dans Franche Culture, spectacle, visite et initiative. L'Anjou va vous surprendre par sa richesse. Et nous sommes 6 dans l'émission pour satisfaire votre curiosité. Avec moi aujourd'hui pour animer cette émission, Marie-Josée, bonjour.
Bonjour Marie.
Vous êtes plutôt lecture ou plutôt musique? Moi, je suis plutôt plage. Et pour cet été dans Franche Culture, c'est lecture et musique. Aujourd'hui, on donne de la voix avec Laurent Silero de la compagnie de chant lyrique Musartis. Côté lecture, on étale bien sa serviette sur le sable. Et on n'oublie pas dans son sac sa crème et surtout les livres dénichés par Sophie Baïf à Plaincourt, du Bibliovore à Angers, et Marie-Josée Dine, notre chroniqueuse, qui commence par le phénomène littéraire de l'année. On vous en dit plus dans quelques secondes et c'est parti pour 30 minutes ensemble.
Franche Culture. Curiosité sous toutes ses coutures.
En 2025, le Centre National du Livre, le CNL, dont on voit le sigle souvent, nous annonce un décrochage violent du nombre de lecteurs. Les Français lisent moins, ils sont moins à lire, ils lisent moins longtemps, et souvent ils lisent avec l'autre œil sur un écran. Et pourtant, un livre phénomène fait mentir ce constat. Il s'en est vendu 600 000 exemplaires en France en 2024, ce qui en fait le livre le plus vendu cette année 2024, il s'agit de « La femme de ménage » de Freida McFadden. Le titre, pour l'instant, ça ne me fait pas rêver, Marie-Jo.
Mais si, Marie, une femme de ménage, ça connaît tous vos secrets. Et vous avez envie de découvrir les siens.
Bon, alors si c'est une histoire de secrets plus que de ménage, ça me va, c'est mieux. Ça raconte quoi ?
Millie décroche un emploi d'employée de maison chez les Winchester, une riche famille new-yorkaise. Elle est super heureuse car sa situation est misérable. Elle vient de perdre son emploi de serveuse. Elle dort dans sa vieille voiture car elle n'a plus les moyens de payer son loyer. S'ajoute à ses difficultés de trouver un employeur le fait qu'elle vient de passer 10 ans en prison. La patronne lui apparaît aimable. Son mari, d'une beauté dévastatrice, est très sympathique. Leur petite fille est bizarrement habillée, mais sans plus. Pourtant, dès le premier jour d'embauche, elle croise le jardinier, un Sicilien. Lui aussi très beau, à tel point qu'il fait pâlir toutes les femmes du quartier. Il ne parle pas anglais et il s'adresse à elle avec un mot étrange, piroccolo. Quand Millie regarde quelques jours plus tard la signification du mot sur Internet, elle découvre que cela veut dire « danger » en italien. Elle n'en croit pas un mot. Mais très vite, l'ambiance se dégrade chez les Winchester et la patronne se révèle toxique, instable, alors que le patron est adorable. Il y a aussi une chose qui chiffonne Millie. Le placard que sa patronne lui a attribué comme chambre ne ferme pas de l'intérieur, mais seulement de l'extérieur. Elle évite de se poser trop de questions, car c'est toujours mieux que de dormir dehors. Et là, petit à petit, l'intrigue devient pesante, malaisante et inquiétante.
Suspense, suspense. Bon alors, pourquoi avez-vous aimé ce livre, Marie-Jo ?
C'est simple, j'ai tout aimé dans ce roman. Un thriller domestique qui se dévore comme un fast-food. Au premier degré, comme au second degré. J'ai été manipulée du début à la fin, alors que je me faisais des idées. J'avais tout faux et je me suis fait piéger. Les émotions varient sans cesse. Et le lecteur s'accroche. Dur, car le rythme, avec des retournements de situation, oblige à tourner les pages, vite, vite, pour en savoir plus tout de suite. C'est un roman parfait pour les vacances. Il se lit comme on regarde une série, sans prise de tête. Je termine en signalant qu'un libraire anonyme le qualifie de roman pour non-lecteur. Car nombreuses sont les personnes qui ne lisent jamais et qui ont dévoré les 3 tomes d'affilée.
Alors, je l'ai dit en intro, 600 000 exemplaires vendus. Pourquoi ce livre attire autant les lecteurs, toutes générations et même partout dans le monde ?
Il se trouve que l'autrice est médecin, spécialisée dans les lésions cérébrales. Et elle s'adresse à notre cerveau reptilien, qui par définition est la partie la plus primitive, la plus animale, et elle nous manipule aisément.
Comment l'auteur de La femme de ménage, Frieda McFadden, manipule notre cerveau reptilien?
Je vous donne un exemple, Marie. Les hommes du roman sont hyper beaux. Elle le répète sans arrêt. Et les lecteurs, plutôt les lectrices, sont sous le charme et en tombent amoureuses.
Merci beaucoup Marie-Jo pour cette première suggestion de livre à lire pendant les vacances. On vous retrouve pour une autre idée de lecture en fin d'émission. Alors un été, c'est en livre, mais c'est aussi en musique, avec vous, Laurent Silero et la compagnie de chant lyrique Musartiste. Vous êtes chanteuse et présidente de l'association Musartiste. Vous avez vécu cette année une expérience de chant insolite. Racontez-nous un peu.
C'est le moins qu'on puisse dire, Marie. Nous nous sommes rapprochés d'une association sur les ponts de Cé, la Fontaine aux Ânes, qui bichonne un troupeau d'ânes et qui propose de la médiation animale avec les personnes en difficulté, que ce soit le handicap, la maladie mentale ou autre. Et nous avons envisagé de faire un projet commun ensemble, mais au préalable, nous voulions tester les réactions et la compatibilité entre le chant lyrique et les ânes. Voilà, pour le moins, quelque chose de totalement inattendu dans notre habitude de faire pourtant bon nombre d'expériences diverses et variées à travers le chant. Et donc, je me suis présentée avec notre directrice artistique sur le terrain des ânes il y a à peu près un mois. Et j'ai pu chanter trois airs d'opéra avec les troupeaux. Le troupeau qui était
donc en extérieur,
dans le champ, au milieu duquel j'étais moi-même présente, avec un accompagnement musical. Et ils étaient en totale liberté, plutôt assez loin de nous, dans l'espoir qu'on ne les fasse pas travailler sur une heure de médiation animale.
Ah oui, ils sont dit « Oh, c'est qui elle ?»
Ils sont très coquins. Et donc, premier chant, un ou deux ânes s'approchent à distance raisonnable. Deuxième chant, chant, C-H-A-N-T, lyrique. Les ânes sont déjà un petit peu moins loin. Et la grande surprise, ça a été vraiment sur le dernier air de Carmen, près des remparts de Séville, où là, les ânes sont arrivés au fur et à mesure de mon air, jusqu'à me toucher avec leur museau, alors que je chantais. Et la présidente de la Fontaine aux Ânes et les âniers qui étaient présents ce jour-là étaient vraiment dans un silence total et abasourdis par ce qui se passait, puisque parmi ces ânes, il y avait des ânes un peu récalcitrants qui, d'eux-mêmes, sont venus vraiment au plus près du son.
Ils ne s'y attendaient pas.
Non.
Et vous étiez donc sans micro?
Bien sûr.
Et accompagné par un musicien ou par
une sono? Non, on avait une enceinte Bluetooth. Et petite anecdote, Marie, enfin petite précision plutôt, le chant lyrique ne se chante pas avec un micro.
Excusez-moi.
Non, c'est intéressant, ça me permet justement de venir préciser ce point de détail si c'en est un. La technique vocale du chant lyrique permet justement d'aller chercher dans les résonateurs du crâne, de la boîte crânienne, et donc on se passe de micro. Il y a une puissance sonore qui se produit par la technique.
Ouais, qui se suffit à elle-même.
Voilà.
Alors c'est incroyable, mais comment l'idée... Alors, si tu es avec ces... Alors j'ai vu, moi, il n'y a pas très longtemps, quelqu'un qui fait sur un compte Instagram, mais c'est vraiment complètement ludique, il joue avec une guitare à côté d'animaux. Et en fait, effectivement, pas mal d'animaux, tranquillement, doucement, en fait, viennent. Donc je pense que déjà la personne est assez bienveillante avec les animaux. Puis la musique est agréable, hein, c'est... Donc ils viennent, ils sont intéressés par le son, donc c'est pas totalement surprenant, mais comment l'idée est venue? Pourquoi? Parce que vous vous êtes rapprochés, pourquoi? De l'association La Fontaine aux Ânes, pourquoi vous êtes rapprochés? Quelle idée de départ? C'était pas ça l'idée de départ, c'est pas de savoir si les ânes aimaient le chant lyrique.
L'idée de départ, c'est la proposition insolite de réunir le chant d'opéra et les ânes. Auprès du public, auprès des citoyens, en particulier
c'est-à-dire
sur les ponts de Cé.
Combiner à la fois la partie médiation avec les ânes pour le public en difficulté et le chant lyrique.
Voilà. Et puis, une situation incongrue.
Ah oui, l'envie de faire un truc spécial.
Parce que ça fait sourire quand on évoque effectivement cette perspective.
Ah bah c'est vrai que quand on a préparé l'émission, vous avez dit ça, j'ai dit « Ah super, c'est un super truc !»
Et il s'agissait quand même de vérifier si les décibels et puis la hauteur de voix avaient un impact sur leur réaction.
Positive ou négative.
Positive ou négative, avant de le proposer dans un espace public, comme on envisage de le faire dans le cadre de la journée de la citoyenneté et peut-être dans le cadre du Téléthon également.
D'accord, donc en fait ça leur plaît. Le son, ils viennent voir en fait.
Non
ils viennent
seulement
voir
ça ne les a pas fait fuir, mais il n'a pas plu non plus. Bon voilà, on craignait qu'il y ait de la pluie, mais non.
Il faut le prendre avec humour.
Oui, ah complètement.
Votre voix plaît aux ânes. Non mais c'est formidable, c'est vraiment une super idée. Donc c'est vrai que vous êtes situé au Pont-de-Cé?
Oui, tout à fait.
Est-ce que Musartis, c'est quoi exactement en quelques mots? J'ai dit tout à l'heure, vous en étiez la présidente de l'association, mais...
C'est une compagnie lyrique, alors sous forme associative, qui propose une formation vocale pour tout amateur de chant et tout niveau surtout, que ce soit du débutant jusqu'au plus avancé. Et pour les chanteurs qui suivent cette formation sous forme de cours individuels, ateliers, stages, on a plusieurs formules de proposer tout au long de l'année. Pour les plus avancés, désireux de faire un travail de soliste sur scène, on construit et on propose des spectacles avec des extraits d'opéra, opérettes, oratorios, musique sacrée, etc.
Donc de formation, mais ce n'est pas professionnel, c'est uniquement pour les amateurs.
Pour les amateurs.
Vous n'êtes pas une chorale?
Non.
Vous dispensez des cours?
Oui, des cours et des formations, et nous proposons des spectacles. Voilà.
Plusieurs fois dans l'année?
Tout au long de l'année, alors on a des rendez-vous avec notre public à Noël, autour de Pâques pour tout ce qui est musique sacrée, l'été autour de la fête de la musique, d'où notre prochain spectacle. Et puis j'oublie dans le cadre du Téléthon, dans le cadre de manifestations diverses et variées. L'objet de notre association étant d'apporter l'opéra au plus près du public et là où on n'attend pas l'opéra, c'est-à-dire de désacraliser l'opéra comme quelque chose qui serait réservé à un public, on ne sait pas trop lequel.
On a envie de dire élite, mais pas forcément.
Élite, élitiste, avec de l'argent, etc. Et vraiment, nous, on lutte contre cette représentation-là pour concrètement permettre aux gens de découvrir l'opéra dans des espaces libres, publics.
Il semble que c'est quand même le leitmotiv des amateurs d'opéra. Parce qu'Angers Dans Opéra aussi cherche énormément à mettre au plus près du public l'opéra.
La différence, c'est qu'Angers Dans Opéra, c'est professionnel.
Oui,
alors
sûr,
avec un cœur amateur.
Ils ont cette volonté aussi de...
D'apporter au plus près, absolument. Absolument.
Ce soir, ils font un spectacle, ils projettent un opéra Place du Ralliement. Ils ont
La Flûte Enchantée.
Voilà, ils ont quand même Mozart. Beaucoup de programmes à destination des plus jeunes, que ce soit en termes de prix ou de prix d'entrée des.
D'accessibilité finalement à.
Alors comment se joue votre accessibilité parce que. C'est pas très onéreux, vous, d'aller voir vos spectacles.
Alors, d'une part, et...
Vous êtes accessible pour ces tarifaires, vous êtes très accessible. C'est pas l'opéra...
Au point que, souvent, nous faisons passer le chapeau. C'est-à-dire que ça permet à quelqu'un qui a peu de moyens de donner peu. Oui. À quelqu'un qui a envie d'être généreux et qui est dans une autre possibilité, de donner plus. Voilà. Pardonnez-moi, j'ai oublié la question de départ. Comment ? Alors, en fait, nous, notre démarche, c'est que c'est nous qui nous déplaçons. C'est comme ça
c'est comme
qu'on
ça
rend
vous faites.
Accessible l'opéra.
Donc là, effectivement, aller voir le public en difficulté avec La Fontaine aux Ânes.
Voilà. Ça, c'est un de nos projets, les plus récents, là, à moyen terme.
Qui va se lancer dans l'année.
Un autre exemple que je peux vous donner pour l'année 2025, nous avons... Alors, attendez, on est en 2025. Alors, 2024, Téléthon 2024, nous avons fait un petit déjeuner qu'on a appelé « Offenbach and Breakfast ». Donc, on a chanté de l'opérette, surtout Offenbach, qui est très joyeux, qui est très ludique et qui est dans l'oreille de chacun d'entre nous, dans le hall d'un centre commercial qui s'appelle La Chênaie, dans le quartier de La Chênaie des Pont-de-Cé, pour que vraiment, là, concrètement, ce soit ouvert à tous. C'est-à-dire, on était à proximité de la boulangerie, de la maison de presse et du bar tabac PMU, et on a chanté au milieu.
Donc, vous allez chercher le public là où il est.
Voilà.
Ça marche?
Il y avait du monde. Non seulement il y avait du monde, mais des gens qui venaient simplement acheter leur baguette de pain, au retour, se sont arrêtés et sont restés jusqu'au bout du spectacle, ce qui pour nous est, voilà, notre ambition première, c'est que les gens soient captés et se laissent surprendre.
Et restent quelques minutes.
Et restent. Voilà. Et certaines personnes, ce jour-là, sont venues voir notre spectacle global, complet, 15 jours après, au Théâtre des Dames. Au Pont de Cé.
Et alors, est-ce que ça marche aussi ? Est-ce que vous avez des adhérents ? Les gens viennent prendre des cours de chant lyrique ?
Oui, tout à fait. Nous avons à peu près 60 adhérents qui sont également des chanteurs qui viennent prendre des cours, mais aussi on a des soutiens, des gens qui adhèrent pour soutenir l'association. Après, c'est le bouche à oreille, c'est... On ne fait pas vraiment de communication sur la possibilité des cours. On a un site, bien sûr, qui est plutôt bien fourni.
Très bien fait.
Que j'invite,
très bien fait, oui, il est très bien fait. C'est musartis.fr. Oui, je l'ai parcouru, hein, même si j'ai oublié qu'on ne mettait pas de micro quand on est chanteuse lyrique. J'ai un peu bossé mon sujet. Excusez-moi. Oui, donc vous avez une soixantaine de personnes qui chantent. Et il y a une partie, ceux qui sont un peu plus doués que les autres...
Alors, on est à peu près.
C'est ceux-là qui viennent
quinzaine.
En spectacle. C'est ceux-là qui viennent, eux, chanter au plus près du public. Voilà.
Donc, il y a à peu près une quinzaine de personnes qui sont vraiment motivées et qui entretiennent leur voix de façon très, très fréquente.
Qu'ont le talent et le travail.
Du travail.
C'est pas que le talent, c'est beaucoup de travail, vous l'avez déjà dit quand vous êtes venu. Oui. Alors, précisément, là, je voudrais parler de la coopération que vous avez faite cette année avec le chœur d'une école.
L'école Henri Dutilleux, l'école intercommunale des Ponts de Cé, qui réunit les trois communes, Bouchemaine, Pont de Cé et Trélazé. Et donc, on a pu entreprendre ce partenariat avec le chœur de l'école, qui est composé d'élèves.
Volontaires aussi, oui.
Voilà, d'amateurs, totalement amateurs. Certains n'ont jamais lu la musique.
Donc, ils ont quel âge, là
Ah ben là, les plus jeunes ont 24 et la plus âgée, notre doyenne, a 80 ans.
D'accord.
Pour vous donner une idée. Et donc, ce chœur fonctionne depuis 2017, je crois, de mémoire. Et ils ont commencé à 8 ou 9 élèves. Et aujourd'hui, ils sont 20. Et pour la rentrée, ils seront 24. Des gens vraiment très engagés dans le projet, qui ont à cœur de venir soutenir le spectacle de Musartis en faisant les chœurs.
Eux, en fait, ne se produisent pas.
Si, ils seront sur scène. Mais
ils se produisent avec vous, en fait. Oui. D'habitude, ils ne se produisent pas.
C'est pas alors l'école... si, ils ont quand même des concerts dans l'année, ils en ont eu un dans le cadre du jumelage.
Alors, qu'est-ce que ça leur apporte alors de venir avec
Eh bien là, ils sont en complémentarité sur un spectacle complet lyrique. Autrement, ils se produisent en tant que chœur, donc des parties chœur. Là, ils vont pouvoir s'intercaler avec des parties solistes ou des duos ou des trios.
Et vous-même, vous bénéficiez d'un chœur alors que...
Voilà. L'entente est parfaite.
Ça se passe
et
bien.
L'intérêt est totalement mutuel, bien évidemment. Mais oui.
Beau projet.
Très.
En plus des ânes.
Enthousiasmant.
ça n'arrête pas. Donc, on va finir là-dessus. Comme je l'ai dit, vous pouvez retrouver tous les renseignements sur le site musartis.fr. Merci beaucoup, Florence Silero. Donc, avec cette collaboration du chœur de l'École de musique des Ponts de Cé, il y a le prochain concert. Le prochain concert, c'est le dimanche 29 juin 2025 à 16h. Ça se situe à la Boîte à culture de Bouchemaine. Et puis, on va écouter un morceau qui va être joué par vous-même, chanté par vous-même, un extrait de Madame Butterfly, l'opéra de Puccini, Un bel di vedremo, l'acte 2, Maria Callas. Merci beaucoup, Florence Hilero.
Merci à vous.
Culture. curiosité sous toutes ses coutures.
On se retrouve après cette belle, très belle pause musicale. On se retrouve pour nos idées de lecture pour l'été avec Sophie Baïf à Plaincourt, qui est libraire. Elle est libraire au Bibliovore à Angers. Sophie, bonjour.
Bonjour.
Alors, qu'est-ce que vous nous suggérez comme première lecture ?
Alors, en première lecture, je vous suggère le Murder Club du jeudi de Richard Haussmann aux éditions du Livre de Poche. Alors, pour commencer, qu'est-ce qu'un cozy mystery ? Ils sont également appelés cozy crimes, littéralement les mystères.
C'est un genre, ouais.
Voilà.
C'est devenu un genre littéraire.
Les mystères ou les crimes douillets. Ces récits proposent des enquêtes menées par des personnages sympathiques, la plupart du temps dans un cadre bucolique, sans violence ni excès d'hémoglobine et saupoudrés d'humour à l'anglaise. Les maîtres du genre, Agatha Christie avec son personnage de Miss Marple, ou plus récemment M.C. Beaton avec son personnage d'Agatha Raisin. Le Murder Club du jeudi, premier tome d'une série de 4 cozy mysteries, ce roman vous propose une équipe d'enquêteurs du jeudi, habitant dans la tranquille campagne de Copper's Chase. Ils mettent en scène une équipe de 4 retraités dont le passe-temps favori est de se plonger dans des cold cases afin d'en découvrir le fin mot là où la police a échoué. Jusqu'à ce qu'un meurtre, tout ce qu'il y a de plus frais, ne se produise à proximité, le directeur associé de leur village de retraite est retrouvé assassiné dans sa cuisine. Quand il s'agit de tromper l'ennui ou de doubler la police, Elisabeth et ses associés sont les premiers sur le pont. J'aime les cozy mysteries et j'ai complètement adhéré à cette série. Les personnages sont variés, une infirmière, un psy, un syndicaliste et une espionne à la retraite, en concurrence avec un duo de policiers locaux et leur association tout à fait improbable. On y trouve une bonne dose d'humour anglais, comme je l'aime, et l'enquête se tient, même si le personnage d'ancienne espionne est bien pratique pour dénouer le fil de l'énigme. Bref, une lecture idéale pour la plage en été ou le coin du feu en hiver.
Parfait, parfait. C'est vrai que ça correspond. Un régal de suspense, comme dit le Livre de Poche.
Voilà,
on va passer au deuxième roman d'un tout autre style.
Ah, tout à fait. Mon vrai nom est Elisabeth, d'Adèle Yon, aux éditions du Sous-Sol, qui est sortie en février dernier. Alors, Adèle Yon enquête, écrit et cuisine. Normalienne, chercheuse en études cinématographiques, c'est à l'occasion de sa thèse, intitulée « Mon vrai nom est Elisabeth, enquête sur le double fantôme » en 2024, au sein du laboratoire de recherche et création Sacre, qu'elle se lance dans l'écriture. Parallèlement, elle travaille comme chef de cuisine. Profil original.
Oui.
Le résumé, une chercheuse, craignant de devenir folle, se lance dans une enquête sur son arrière-grand-mère, Betsy, diagnostiquée schizophrène dans les années 50, dont l'héritage semble être une peur immodérée de la folie. La narratrice, qui n'a pas connu cet aïeul, ne dispose que de légendes et anecdotes familiales. Une vieille dame, bonnet de bain sur la tête, qui faisait des sauts de grenouille dans la piscine de la propriété familiale. Une grand-mère, avec des trous de chaque côté du crâne, qui racontait que son voisin de chambre la regardait nue à travers les murs. Beaucoup d'enfants pour cette femme internée pendant plus de 30 ans. C'est tout. Les enfants d'Elisabeth, c'est son vrai nom, n'en parlent pas. Maman, c'est un non-sujet. À la croisée de l'enquête familiale et sociétale, du récit autobiographique, du road trip et de l'essai, ce premier ouvrage est un livre poignant. À travers le récit d'Adèle Yon, les archives et les entretiens avec les proches de cette arrière-grand-mère se déploient un panel de sujets. Le poids de l'hérédité, les violences faites aux femmes, la psychiatrie du début du XXe siècle et le carcan d'une famille nombreuse bourgeoise avec ses secrets pour protéger la façade.
Alors, c'est un livre qui a un succès phénoménal là depuis.
Oui.
Alors, on n'a rien à voir avec le livre présenté par Marie-Jo, mais c'est un tout autre style. Là, on est quand même publié en février, je pense que c'était janvier, mais c'est février, elle a déjà vendu 60 000 exemplaires. C'est absolument énorme. En termes d'édition, c'est énorme.
Oui, c'est énorme et c'est surtout une surprise.
Oui, elle n'était pas attendue.
Elle n'était pas du tout attendue. C'est un livre qui a vraiment été plébiscité par les libraires. Il y a eu peu de publicité avant la sortie et il a fallu rajouter en fait, des rencontres parce que
elle est invitée partout.
Elle
est invitée partout. Elle a eu un prix.
Oui.
Le Nobelops, je crois.
Elle a eu d'autres. Je vais dire une bêtise. Je crois
que c'est ça. Ouais. Et c'est vrai que ça a l'air assez extraordinaire.
Alors,
les sujets sont durs.
Les sujets sont très durs. La lecture est très particulière puisqu'on alterne les phases de récits de soi, d'enquêtes, d'extraits d'archives.
Oui, il y a vraiment une partie épistolaire, parce qu'il y a des extraits de lettres qui sont...
Tout à fait. C'est vraiment très varié, c'est ce qui fait, moi, à mon avis, la richesse de ce livre, qui n'est pas une lecture joyeuse, mais qui est une lecture vraiment très intéressante.
Ouais, je pense que c'est la lecture à avoir en ce moment-là.
Oui.
Il me semble que c'est un peu le... Voilà, il me semble ça. Merci beaucoup, Sophie. Un troisième livre ?
Un troisième pour la
route. Une lecture adolescente, plutôt jeune adulte, d'une auteure archi-reconnue.
Tout à fait. Francœur, à nous la vie d'artiste, de Marie-Aude Muraille et Constance Robert Muraille. Édition École des loisirs, dans la collection Medium Plus, donc effectivement c'est pour les 13 ans et plus. Beaucoup se demanderont, mais pourquoi recommander un ouvrage jeunesse ? Je vais citer Marcel Aimé qui disait « Il n'y a pas de livres pour les enfants, il n'y a que des livres assez bons pour que les enfants les lisent. » Marie-Aude Muraille fait partie de mon panthéon des auteurs jeunesse. J'attends toujours avec une certaine impatience ses romans dans lesquels elle s'est toujours proposée une histoire passionnante avec des problématiques qui parlent aux enfants et aux ados auxquels elle s'adresse. Elle sait varier les styles, policiers, historiques, histoires de famille, toujours avec le même talent. Pour ce nouveau titre, comme pour le dernier tome des aventures de Sauveur et fils, elle coécrit avec sa fille Constance Robert Muraille. Elle nous propose cette fois un roman épistolaire qui se déroule au 19e siècle, poussé aux confidences par...
Ça la change parce qu'elle est plutôt...
Oui.
C'est plutôt, ouais, elle est plutôt dans l'actualité
Tout
dans
à
ses
fait.
Romans.
Donc, poussé aux confidences par sa correspondance avec une curieuse jeune lectrice qui l'interroge sur sa condition de femme artiste, son parcours, les recettes et la rançon du succès, Francœur va se confier sur sa vie et celle de la famille Dupin. Elle est romancière, son père peintre et ses frères et sœurs peintres, poètes et actrices. Inspirée par les artistes Georges Sand, Rosa Bonheur et Sarah Bernhardt, mère et fille interrogent la place des femmes dans un monde masculin. Pourquoi vouloir devenir artiste ? Quelle est la place du fantasme dans l'acte d'écrire ? Marie-Aude Muraille explique avoir voulu écrire un roman historique pour apprendre à sa fille à s'immerger dans la documentation tout en sachant s'en détacher pour créer un roman et pas un essai. Ce roman raconte le travail derrière l'œuvre. Francœur transmet son savoir à sa mystérieuse correspondante, tout comme Marie-Aude transmet à Constance, faisant de ce roman une histoire de transmission de notre patrimoine littéraire et artistique. Le tome 2, À nous la vie de château, est déjà disponible.
Bon, alors tout le monde, rendez-vous au Bibliovore, place de la République à Angers, où Sophie sera vous conseiller. Si ce n'est pas ces livres-là, il y en aura d'autres.
Il y en aura plein d'autres.
En parfait état, 3 € le livre, 4 livres, 10 €. C'est, voilà, il y a d'excellents choix. Il y a beaucoup de conseils dans cette librairie. C'est absolument magnifique. On va finir avec une dernière petite chronique, Marie-Jo. On va vous retrouver pour votre coup de cœur de l'année 2025.
Oui, je vais vous parler de La maison dans les nuages de Nicholas Butler. C'est sorti en poche le mois dernier. Cet écrivain est américain et... J'ai trouvé qu'il était trop méconnu en France. C'est son 4e roman, mais il se trouve que je ne l'ai pas... J'ai pas pu l'emprunter dans aucune bibliothèque. C'est dommage, parce qu'en 2025, j'ai lu 68 livres, et c'est ce roman qui est mon plus gros coup de cœur.
Alors comment vous en avez eu connaissance ?
Bah sur Instagram.
Voilà.
C'est une mine d'or pour les lecteurs.
On le sait.
On y revient toujours.
Toujours. Alors, c'est vrai qu'on peut citer votre compte Instagram, Fumée de lecture. Qu'est-ce qui raconte ce roman ?
3 ouvriers associés dans le bâtiment, ils sont amis, se voient proposer un contrat juteux, mais très risqué. Il s'agit de construire la maison sublime d'une richissime avocate californienne. Il y a un seul problème. Ils doivent accomplir leur tâche en 4 mois. Cela implique de travailler jour et nuit. Et tous les corps de métier de bâtiment sont formels, c'est impossible. D'ailleurs, le lecteur se pose vite la question « Pourquoi cette exigence de la propriétaire ?» Mais l'appât du gain étant trop fort, ils acceptent. Le cauchemar ne va pas tarder à se manifester, puis l'horreur.
Alors pourquoi vous avez aimé ce roman ?
Impossible de le lâcher, car on veut savoir s'ils tiendront le coup. Et surtout s'ils toucheront la prime à 5 chiffres que l'avocate leur a promis en cas de respect de son échéance exigeante. C'est inspiré de faits réels. On frôle le roman noir. Il y a angoisse, coup d'éclat, drame, mais aussi plaisir dans un style diablement attractif.
Merci beaucoup Marie-Jo, c'était Nicolas Butler, La Baison dans les nuages, aux éditions Stock. Merci encore Marie-Jo, merci beaucoup Laurent Silero de la compagnie Chant Lyrique Musartis, merci beaucoup Sophie Baïf de Bibliovore. C'est la fin de ce Franche Culture, le dernier de l'année, 30 minutes de culture tous azimuts en Anjou. Merci beaucoup à Marion pour la technique, retrouvez-nous un mercredi sur deux en direct à 17h, et le dimanche à 11h, et bien sûr en podcast. N'oubliez pas, la curiosité se partage sur les réseaux sans modération. Très bel été à vous tous.
Une émission à retrouver sur le www.radiocampusangers.com.